French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Mais pour te dire, tu sais, ma mère, on écoutait un épisode et c'était l'histoire d'une fille de 15 ans qui avait fait le mur, qui était partie avec un mec de 19 ans. Et quand elle n'a pas voulu coucher avec lui, le mec de 19 ans l'a tué et l'a jeté dans la rivière. Et ils l'ont retrouvé une semaine plus tard. Moi, j'écoutais ça bon comme ça parce que je conduisais, on faisait la route, je m'en fous, c'est un épisode. Et ma mère était en larmes. Et je la regarde, je fais « What's wrong ?» Elle me fait « That could have been you. »
Ouais.
Ça aurait pu être ton histoire. Et elle m'a expliqué qu'elle sait que ça m'a fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, mais elle voulait éviter que je devienne un épisode, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je la remercie. Je lui dis tous les jours, quand je lui parle, je lui dis merci maman, merci d'avoir été là pour moi, merci de ne pas m'avoir abandonnée, parce que beaucoup de filles dans cette école où j'étais, leurs parents les avaient abandonnées. Tu sais, les parents, eux aussi, étaient des drogués. Ou les mamans aussi faisaient des trucs pas bien avec des mecs. Ou les pères étaient alcooliques et abusaient les gosses. Moi, rien de tout ça. Moi, je suis venue d'une bonne famille. Un papa rock'n'roll, une maman entrepreneuse, une jolie famille. On vivait dans une jolie ville. J'avais absolument tout ce que je voulais. Et c'était moi, pour cause de rébellion, parce que je voulais être comme Buffy, parce que je voulais casser les murs de Santa Barbara, parce que je voulais sortir du lot et être reconnue comme une rebelle. Eh ben, je me suis retrouvée dans un putain de bordel, en fait.
Il y a quelques années, lors d'un séjour en France, je suis tombée sur un livre. Petit agité. Comme bien souvent, quand l'histoire m'intéresse, j'ai acheté ce livre, je l'ai dévoré dans l'avion et je l'ai ramené chez moi aux États-Unis. Son histoire, c'est celle de son autrice, Manon Manœuvre. Et oui, si vous vous posez la question, c'est la fille d'un certain Philippe que vous connaissez très certainement. Manon est née à Paris et à l'âge de 2 ans et demi, elle quitte la France avec sa maman afin de s'installer en Californie, alors que ses parents viennent de divorcer. En grandissant pendant les années 90, alors qu'elle a, sur le papier du moins, tout pour être heureuse, elle souffre terriblement d'une chose, c'est de l'absence de son papa, qu'elle ne peut voir que 2 fois par an. À l'époque, rappelez-vous, pas de FaceTime, ni de texto et encore moins d'email. La fin de son enfance et son entrée dans l'adolescence sont particulièrement difficiles. Manon est renvoyée de 2 lycées et elle est même interdite de séjour dans un school district, donc dans un district scolaire. Son comportement au quotidien devient particulièrement difficile à vivre, notamment pour sa maman qui en vient à considérer une solution radicale, celle d'envoyer Manon dans une école privée de haute sécurité dans l'état de l'Utah. L'école, c'est la Provo Canyon School, un nom qui dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, car c'est aussi là que Paris Hilton a été envoyée pendant son adolescence. Manon, elle, quand elle parle de cette école, elle parle d'une prison. Dans cet épisode, je vous invite à explorer le tumulte de l'adolescence, le bouleversement des souffrances et les décisions que l'on prend parfois lorsque l'on se retrouve piégé au pied du mur. Le récit de Manon est très dense et j'ai décidé de le séparer en deux épisodes. Ce premier, qui va raconter pour vous son adolescence et qui est une grande partie de ce que raconte Manon dans son livre « Petit agité », et le second, qui se concentre sur l'après. Parce qu'après la crise, après la tempête, le soleil revient. Alors libre à nous de décider ce qu'on va en faire. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction le centre de Denver, à la rencontre de Manon Manœuvre. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps, c'est trop sympa.
Ouais, grave, je suis trop contente. Moi aussi, merci de m'avoir invitée.
Bah, avec plaisir. Alors,
je vais essayer de ne pas faire E.
Bonjour, je m'appelle Manon Manœuvre et j'ai 35 ans. J'habite dans le Colorado, à Denver. Je suis originaire de Paris et j'ai grandi à Los Angeles et je suis photographe et j'ai lancé ma marque de champignons psychédéliques ici dans le Colorado cette année.
Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire ça.
C'est clair, on est dans le pays du psychédélique.
Alors c'est marrant, tu dis que tu es originaire de Paris, tu es née à Paris ?
Je suis née au Lila dans le 93, dans une petite clinique, ouais.
D'accord.
J'adore dire que je suis née à Paris, c'est la classe.
Surtout aux États-Unis.
Oui.
Oh, your life must be so romantic.
Yeah. Cigarettes and beers and cheap bars. Yeah, romantic.
Merci beaucoup en tout cas de me faire le plaisir de m'accueillir chez toi ce matin. J'ai bien envie en fait de dérouler un peu le fil de ta vie. T'as que 35 ans, mais finalement il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que tu peux me raconter justement, donc t'es née à Paris, à quel moment est-ce que t'es partie vivre aux États-Unis ? Tes parents se sont séparés, c'est ça ?
Voilà, mes parents se sont séparés lorsque j'avais 2 ans et demi à peu près, et ma mère était actrice et mannequin. Elle avait rencontré mon père lorsqu'elle tournait Le Jumeau avec Pierre Richard et sa sœur jumelle à Paris. Et mon père était la star des Enfants du Rock à l'époque. Donc, ils s'étaient rencontrés, tombés amoureux, les soirées au Palace, les soirées au Queen. Et finalement, ils se sont mariés. Ils ont eu un petit bébé, donc moi. Et 2 ans et demi plus tard, ma mère a décidé que Paris, c'était pas pour elle. La Californie lui manquait, où elle avait été actrice pendant longtemps avec sa sœur jumelle Camilla, qui était aussi là-bas avec ses enfants. Et du coup, les jumelles avaient envie de se retrouver et de se reconnecter, comme on voit avec les jumeaux et les jumelles, elles ont du mal à être séparées. Ouais. Et du coup, je suis partie vivre en Californie en laissant mon père à Paris. Ouais. C'était triste, j'imagine.
À 2 ans et demi, j'imagine que tu te souviens pas trop de ça.
Je me souviens pas de grand chose, c'est vrai, mais je me souviens que c'était difficile pour moi de voir mon père que 2 fois par an.
Ouais.
Il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas FaceTime à l'époque, donc c'était un coup de téléphone à 15h pour moi, il était 23h pour lui, et on se parlait fin de journée, et voilà, c'était tout, mais c'était pas super génial comme relation avec mon père. Parce qu'il était si loin. Du coup, je le voyais l'été et Noël, un Noël sur deux. Et l'été, je le voyais. Donc, c'était... Ouais. Et puis, quand il venait à Los Angeles, interviewer des rockstars comme Iggy Pop ou Air ou Ozzy Osbourne, ma mère me descendait de Santa Barbara.
Santa Barbara, c'est hyper proche de Los Angeles quand même, non ?
C'est à 1h30 de voiture.
Ah, quand même.
Donc, quand j'avais 6 ans, voilà. Quand j'avais 6 ans, ma mère a décidé que Los Angeles, c'était un peu trop violent. Il y avait eu les émeutes de 96, le tremblement de terre de 94.
C'est vrai.
Ça faisait beaucoup.
Ouais.
On avait perdu la moitié de notre maison dans le tremblement de terre. C'est tombé dans une falaise.
Ouais.
Et puis, on a décidé de partir à Santa Barbara parce que, encore une fois, elle avait des amis qui habitaient là-bas et ils disaient, c'est le paradis sur terre pour les enfants.
Ouais.
C'est beau, c'est vert, il y a des chevaux.
Pardon ? C'est une petite ville.
C'est une petite ville. Maintenant, c'est énorme grâce à TikTok.
L'université
a été, toujours été l'université où tu allais si tu étais surfeur et que tu voulais devenir médecin. Tu allais à UCSB.
C'est vrai.
Oui. C'était hyper connu pour ça.
D'accord.
Mais Santa Barbara, à côté, il y a une petite ville, un petit village qui s'appelle Montecito. Et c'est là où j'ai grandi. C'était vraiment comme un patelin français. Tout le monde se connaissait, les voisins, le boucher, le boulanger. Maintenant, c'est un peu plus riche parce que nous avons Oprah qui habite là.
Ah, ouais.
Harry et Meghan de la famille royale habitent à Santa Barbara. Et Ellen DeGeneres qui était une présentatrice qui ne l'est plus. Mais avant Santa Barbara, ce n'était pas ce que c'est maintenant. Ce n'était pas bourgeoisie, ce n'était pas...
C'était accessible.
Oui, c'était plus cow-boy et vin blanc. Maintenant,
c'est pas du tout l'image qu'on en a.
Ah oui, non, maintenant, c'est très bourgeois. Tout est très, très cher. Ma mère et moi, où on habitait, maintenant, ça a quintuplé en prix. Quand on était là, c'était 1 000 $ par mois. Et maintenant, c'est 5 000 $.
Ouais, ouais.
Et la maison n'a pas changé.
Ouais.
Et donc, j'ai grandi à Montecito. Mais le problème avec les petites villes riches des États-Unis, comme on peut le voir dans beaucoup de séries américaines, c'est qu'on s'ennuie en tant qu'adolescent. En tant que pré-adolescent, on s'ennuie. J'ai grandi à l'époque où on regardait des séries télé comme Buffy contre les vampires, Friends, Roswell, Dawson's Creek. Pour moi, quand je revois mon enfance, je me rends compte qu'il y avait quand même beaucoup de...
Similitudes,
mais en fait, on avait envie d'être comme les gens qu'on voyait à la télé. Ce n'était pas de la réalité TV, ça n'existait pas encore.
Bien sûr.
Il n'y avait aucune reality show TV. There was no Jersey Shore, there was no Real Housewives.
Je vous parle d'un temps.
Voilà, c'était des séries, c'était des trucs
romantiques. Mais c'était vrai partout dans le monde. Enfin, je veux dire, en France, moi j'ai grandi en France, on s'identifie quand même à ce qu'on regarde beaucoup.
Voilà, exactement. Mais comme c'était tellement scénarisé, si tu veux, moi j'ai l'impression que notre génération... On s'est un peu lancé un peu plus rudement dans les expectations qu'on avait. Donc, moi, quand j'allais au lycée, I wanted to be the cool kid.
Ouais.
Donc, je voulais
genre
avoir
Mean
le...
Genre Mean Girl, tu voulais être... Voilà. Comment s'appelle la blonde
mais
Regina.
D'ailleurs, je n'ai jamais vu Mean Girls.
Non. Mais tu as vu qu'ils ressortent un nouveau
Mean Girls? J'ai vu, ils ont sorti un musical. Mes copines en sont folles. Je crois que j'étais en France quand c'est sorti.
Ah ouais.
Parce que pour moi, j'ai regardé Bring It On.
Ouais.
Tu vois, je regardais d'autres... Genre Mean Girls, c'était... Lindsay Lohan, ça n'a jamais... Que... J'ai toujours été team Paris Hilton.
Ok.
Je n'ai jamais été team Lindsay Lohan. Je ne l'ai jamais aimée. Notre adolescence à Santa Barbara était hyper sexualisée.
D'accord.
Ce qui fait que maintenant, des séries comme Euphoria, je ne peux pas les regarder.
Je ne sais même pas ce que c'est.
C'est une série sur HBO, sur des gamins qui se font chier dans une ville et ils prennent de la drogue. Et ils couchent ensemble et ils font plein de trucs. Et du coup, it hits too close to home.
Ouais.
C'est beaucoup trop proche de moi et je suis là. Nous, on l'a vécu en vrai.
Ouais.
Tu vois, et c'était ça. C'était de l'hypersexualisation, en fait, quand j'étais jeune. C'était montrer son nombril, c'était s'habiller comme Britney Spears, comme Christina Aguilera, dirty, tu me fais même pas dire. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans des embrouilles, enfin, dans des situations dans lesquelles, aujourd'hui, si c'était mon enfant, mais je le sortirais de là en 2 secondes.
Ouais.
Et ma mère, elle a vraiment essayé, en fait. Mais elle était seule. C'était une mère seule. Elle avait pas... Il n'y avait pas d'homme à la maison, je n'avais pas de grand frère, j'étais enfant unique. Je détestais le fait que mon père ne soit pas plus présent dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas passer plus de temps avec moi.
Tu as failli même aller vivre avec lui, il t'a fait visiter des écoles et tout. Puis quand tu as compris que maman ne pouvait pas venir, c'était « ah bah non, c'est mort ».
Voilà, quand j'étais plus jeune, oui, je voulais vivre avec mon père. Et quand ils m'ont expliqué que j'allais vivre qu'avec mon père, j'ai eu les pieds froids. Je me suis dit « ah non, je ne veux pas me séparer ». Je ne veux pas me séparer de ma mère. Et puis, quand j'étais adolescent, ma mère n'en pouvait plus.
Mmh.
Et on a un peu décidé, enfin, elle a décidé avec une psychiatre et ses copines que j'étais hors de contrôle. Je faisais le mur. J'aimerais dire quand même que je ne prenais pas de drogue.
Mmh.
C'était juste vraiment de la surénergie d'adolescente.
Mmh.
J'ai pris de la drogue une fois avec un mec et ça m'a tellement...
Ça fait peur.
Ah ouais, ça m'a fait tellement peur que j'ai eu une réaction où mes yeux étaient scellés, fermés pendant 3 jours.
Mmh,
parce que j'ai eu une réaction averse à ce qu'il m'avait donné. Donc, je prenais pas de cocaïne, je prenais pas de cachet, je prenais pas de drogue.
Alors que c'était monnaie courante autour de toi.
Voilà, tout le monde prenait ça, tout le monde prenait les cachets de chez ses parents, le Valium, le Xanax, le Prozac, le truc. Ah, et moi, j'étais à « no, I don't need it, ça va, moi, j'ai assez d'énergie, je suis assez folle toute seule ».
Mais tu t'es pris pas mal d'embrouilles, quoi, en fait. Et...
Je me suis fait virer de deux écoles, deux lycées en 6 mois. Mm-hmm. Et j'étais bannie du
school district. J'ai vu ça, ouais.
Ouais, donc ça veut dire que n'importe quel lycée dans les 15 kilomètres qui encerclait n'avait pas le droit de me prendre.
Ah, j'avais pas
j'étais
compris ça,
d'accord. J'étais bannie, en fait, de Santa Barbara. Et donc, du coup, ma mère, il a fallu qu'elle prenne... Elle était boss de sa propre business.
Elle était entrepreneur.
Elle était entrepreneur. Elle avait une compagnie qui fabriquait des meubles très shabby chic, blanc, très beau,
très californien,
très californien, rustic, cowboy, magnifique. D'accord. Et mais elle était seule, donc du coup, tous les matins, elle devait prendre 45 minutes et m'emmener hors du de Santa Barbara pour m'emmener à Goleta, qui est un quartier un peu moins riche que Santa Barbara, mais quand même reste riche. Et ensuite, elle devait faire 1 heure de route pour aller, elle, à ses bureaux à Carpinteria, qui est dans le sud de Santa Barbara. Bref, ma mère a été quand même
donc dévouée.
Un putain de soldat. Ouais. Ouais. Ma mère, elle voulait vraiment le meilleur pour moi. Ouais. Et je pense que quand on est jeune, on ne le remarque pas. On pense que les parents sont contre nous. Et en fait, on est en train de le vivre en ce moment avec ma nièce de 12 ans. Et chaque fois que ma mère me raconte ce que dit la nièce, je dis, mais ça te paraît pas...
Ça te rappelle pas quelque chose?
Ça te rappelle pas quelqu'un? C'est exactement ce que je disais. Ouais. Elle a fait, j'avoue, j'ai l'impression des fois qu'elle a lu ton livre parce qu'elle sort exactement les mêmes phrases.
Ah oui?
Donc je dis, you know, let's pinch it in the bud. Let's grab her.
Percer l'abcès, quoi.
Ouais, percer l'abcès avant que c'est trop tard. Parce que moi, ça, j'ai poussé. Et à un moment, ma mère, elle a dit, j'en peux plus.
Alors, vous vous demandez peut-être de quel livre il s'agit, de quoi est-ce que Manon parle. En fait, le livre auquel Manon fait référence, c'est comme ça que moi, personnellement, je l'ai découverte. En 2014, elle a sorti un livre, Trouble Child, en anglais, ou Petit Agité, en français, que vous retrouverez aux éditions Flammarion. Et dans ce livre, elle raconte son parcours. C'est donc une autobiographie dans laquelle elle raconte son enfance, une enfance qui a été malgré tout difficile, loin de son papa, une personne qui lui a beaucoup manqué en grandissant. Chemin faisant, Manon grandit, elle devient une préadolescente, puis une adolescente, et tout du long, elle cherche par tous les moyens à attirer l'attention de son papa, de cette personne qui lui est si chère, mais qui est si loin, puisque littéralement, il vit à 11 000 km d'elle. Le quotidien étant de plus en plus compliqué, la maman de Manon a pris une décision radicale.
Un jour, j'ai dit à ma mère que je ne me sentais pas bien, que je ne voulais pas aller en cours. C'était monnaie courante à la maison. Et que je voulais rester avec elle, faire la vaisselle, faire la lessive. Je voulais être sa petite aideuse. J'avais 14 ans. Et bizarrement, elle n'a pas bagarré l'idée. Elle a fait « Ok, no problem, stay with me ouais. ». Et j'étais « Ok, génial ».
J'ai gagné.
J'ai gagné, je vais aller à la plage, ouais. Je vais aller voir mes copains, les garçons les plus âgés, bien sûr. Et pas du tout, en fait. Je faisais la lessive, comme j'ai promis, et j'étais en train de plier mes fringues. Je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais. Puis tout à coup, j'entends « Where is she ?» Et ma mère dit « She's in her room ». Et je tourne la tête et je vois un homme et une femme. Et quand je vous dis, c'est des placards.
des armoires à glace, tu veux dire
des armoires à glace, voilà, c'est ouais. ça le...
Massif.
Et en costard. Mais en costard, mais comme les flics dans New York Unité
Spéciale. Un peu
Men
in Black.
Beige, avec le
la cravate.
La cravate qui est assortie au truc. Mais un truc moche, quoi. J'étais là, oh, quel mauvais goût. J'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe?
Et, pourquoi vous me cherchez?
Et ils m'ont dit, on a besoin que tu fasses un sac. Et je le regarde et je fais, mais pourquoi? Et je fais, maman! Et ma mère, bah, je la vois dans le salon en train de pleurer. Ouais. Et il a fait « You can go » à ma mère. Et là, vous pouvez partir. Et ma mère l'a fait « Je t'aime ». Et elle est partie. Et là, je me suis rendu compte, merde.
Qu'est-ce qui se passe?
Genre, comment... Parce que normalement, dans ma vie, j'ai toujours réussi à bullshiter. J'ai toujours réussi à m'en sortir. Les policiers qui t'arrêtent quand tu fumes un pétard. Oh, ça va, monsieur, c'est du tabac, blablabla. Ok, c'est bon, ils te laissent partir. La mauvaise note en cours. Oh, mais monsieur, je suis désolée. C'est bon, ils te rectifient. Mais là, j'avais deux armoires à glace dans ma chambre.
Il y avait des vraies conséquences et il n'y avait plus de machin.
Ma mère est partie. Il y avait une grille sur la fenêtre de ma chambre, donc je ne pouvais même pas sortir par la fenêtre si je voulais.
Tu y as pensé?
Ah oui, c'était mon premier instinct. Je voulais partir en courant.
Tu savais de quoi il s'agissait? Parce que
pas du tout.
Cet endroit, on t'en a parlé quand même pendant un moment avant que...
Ils m'en ont parlé. Quand je me suis fait virer du premier lycée à Santa Barbara, mon père et sa copine à l'époque étaient en train de me garder. Parce que ma mère n'était pas là.
Oui.
Donc, mon père était là, je me fais virer du lycée. Il me fait, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait, ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas de ma faute, c'est le mec qui m'a insulté, je me suis défendue. Ok, mais sauf que t'es virée du lycée et que t'es virée du comté.
Ouais.
Donc, il faut qu'on te trouve un autre lycée. Ouais. J'ai fait, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Et là, il me fait, ta mère nous a laissé une cassette d'un endroit où elle voudrait que tu ailles. Et si on le regarde? Et je le regarde et je fais, ouais, pourquoi? Ok, pourquoi pas? On le regarde et il me dit, hors de question qu'on t'envoie là-dedans.
C'était quoi? Il y avait quoi dans cette vidéo?
C'était une vidéo où il te montrait tous les enfants étaient habillés avec des t-shirts de couleurs différentes, avec des shorts beige, des kakis, des baskets. Tout le monde avait les cheveux bien coiffés, tout le monde souriait.
Ça fait un peu école privée américaine, quoi.
Voilà. Sauf qu'il te montre une liste de ce dont tu n'as pas le droit de parler.
De parler, carrément.
Mm-hmm. Donc, pourquoi tu es là? Sauf si tu es en thérapie. Les groupes de rock, les groupes de métal, les groupes de punk que tu aimes, hors de question.
Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles violentes ou des choses comme ça?
Parce qu'il y a des paroles violentes, parce que ça incite à la violence, ça incite à prendre de la drogue, parce que tu glamourises des artistes qui ne vivent pas le mode de vie sain.
Oh wow.
Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que cette école est dans l'Utah. Donc l'Utah est un État aux États-Unis qui est connu pour sa religion, qui est le mormonisme.
Mm-hmm.
Et le mormonisme, en fait... Ce sont des gens qui sont calmes, clean, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Et leur but, c'est de faire autant de bébés que possible et de prier à un dieu qu'ils ont inventé. Et le dimanche, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Tu ne peux pas acheter de l'alcool à partir d'une certaine heure.
Alors toi, tu as grandi en Californie. Moi, je vivais sur la côte Est et c'était le cas encore à Boston. Tu ne pouvais pas acheter d'alcool avant 14h ou un truc comme ça parce que tu étais censée être à la messe.
Ah oui, ok. Bon.
Donc, c'est pas que les mormons.
Bon, d'accord. Touché. Non, parce que moi, ça me choque à chaque fois les lois sur l'alcool dans un pays qui a glamourisé l'alcool autant que les États-Unis.
Ouais.
Enfin, comme je te disais hier, on regardait Les Intouchables avec, sur l'histoire d'Al Capone. Bah, c'est tout la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Et tu te dis, mais s'ils essayaient de faire ça aujourd'hui, est-ce qu'ils y arriveraient? Ou est-ce que pour une fois dans leur vie, les Américains se mettraient debout et feraient « Non, on va se battre !» Parce que...
Je suis pas sûre.
Ils se laissent faire pour tous les autres trucs, donc on sait pas,
mais ça.
Bon. J'ai été virée du lycée de Santa Barbara. Je suis allée à Goleta. J'ai merdé avec les garçons pas mal. Et je me suis mise dans des situations que...
Tu t'es fait agresser?
Je me suis fait agresser.
T'es pas obligée d'en parler. Hein.
Non, mais c'est des pensées intrusives qui viennent chez moi, souvent. Souvent en ce moment même.
Je suis désolée.
Non, pas de souci. Ça me dérange pas du tout parce que pour moi, en fait, je me rends compte que... Bien sûr que ce n'était pas de ma faute, c'était des mecs de 23 ans. Ils n'avaient rien à foutre avec une gamine de 14 ans, déjà. Mais aussi, je mentais sur mon âge, violent. Je disais à tout le monde, j'avais 17 ans. Tout le monde me croyait parce que j'avais passé des étés en France.
C'est plus facile de ne pas poser de questions aussi.
Ben oui, mais j'avais passé des étés en France. Je savais comment fumer une cigarette, je savais comment boire une bière.
Mais quelle image tu donnes de la France?
Bah écoute, on peut faire plus la fête en France qu'aux États-Unis.
Ouais.
Ça, c'est en étant en adolescence, c'est quand même un truc. On en a parlé avec pas mal d'amis. Et
c'est vrai.
C'est un autre monde, l'adolescence en France, parce que je l'ai vécu aussi. Et donc, je suis allée dans cette école dans l'Utah. Ça a été beaucoup de déni, dire que non, ce n'était pas un problème, que j'avais voulu tout ça, que tout était bien, ça va, j'ai pas besoin de médicaments, laissez-moi tranquille.
Parce qu'il te médicamentait aussi là-bas.
Matin, midi et soir.
Mais alors j'ai une question, bon, j'ai lu ton livre donc je connais un petit peu des choses, mais juste pour clarifier, tu nous as dit que ton papa qui était donc avec sa copine à l'époque, c'était mais hors de question, on va jamais t'envoyer là. T'as quand même deux parents. Ta maman donc du coup a accepté en disant je baisse les bras, j'ai besoin d'aide quoi.
Et mon père offrait de m'emmener en France. Il offrait de dire à ma mère, listen, ça ne fonctionne pas avec Manon, tu es débordée, tout va bien, je la ramène avec moi en France. Mm-hmm. Ma mère a dit non. Et donc, l'agression s'est passée. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres trucs qui se sont arrivés, des bagarres avec ma mère, les flics, les trucs. Mm. C'était beaucoup.
Ta chambre ?
Ouais, ma chambre. Ma chambre. Et maintenant, tu peux demander à n'importe qui. J'adore que ma chambre soit bien rangée. Tellement ça m'a traumatisée d'avoir détruit ma chambre et d'avoir détruit mes jolis vêtements, mes jolies peintures, les peintures de mon grand-père.
Ouais. T'avais une rage en toi, en fait.
J'avais une rage contre mon père, j'avais une rage contre ma mère, parce qu'elle voulait que je sois parfaite. Elle voulait que je sois Regina.
Elle voulait que je sois... Tu connais comme la référence Regina.
Oui, je vois. Elle voulait que je sois...
Regina,
elle voulait que je sois la cheerleader, la top of the class, most popular girl, mince, jolie. Et ce n'était pas qui je voulais être. Parce que ma mère voulait que je sois cette personne, il fallait que je sois absolument l'opposé. Donc, il fallait que j'ai les cheveux rouges, il fallait que j'aime le punk, il fallait que je mette du kohl dans les yeux pour que j'ai l'air
les yeux bien noirs.
Enfin, bref, que j'ai les perles de punk autour du cou. Alors que j'adorais vraiment la musique punk et la musique rock, bien sûr, grâce à mon père.
Ouais.
Mais j'aimais aussi beaucoup Britney Spears. Et je voulais être cette fille que tout le monde voulait que je sois, la petite californienne. Et pourtant, il y avait comme une énergie qui me tirait pour me dire « Non, ne sois pas parfaite. Sois l'opposé. Ça t'attirera plus d'attention de ton père. Ton père va te remarquer plus si tu fais plus de vagues. »
Parce qu'en même temps, en étant si loin, en n'ayant pas 15 modes de communication, c'était en faisant des choses grandes, pas forcément bien, mais des choses grandes que tu pensais du coup qu'il se rendrait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
On n'avait même pas Internet à l'époque.
Ouais.
Enfin, si, ça existait, mais c'était pas
adopté.
Il n'y avait pas de BlackBerry. Je ne pouvais pas envoyer un texto à mon père en disant « Dad, help ». Non, ça n'existait pas.
Donc du coup, on revient à cette scène où tu as ces deux personnes qui viennent te chercher.
Voilà.
Vous prenez l'avion, du coup ?
On me dit de préparer un sac et je demande pour combien de jours.
Ouais.
Et il me dit 5 jours. Et je fais, oh, that's not bad. OK, fine. Donc, je mets...
Tu te méfies pas, du coup ?
Non, au moins. Je mets mes fringues préférées, mon mini short, mon petit débardeur. Et puis, il m'emmène à l'aéroport de Santa Barbara. Et j'avais des médicaments à l'époque parce que j'étais suivie par un psy, bien obligé aux États-Unis, en tant qu'adolescent perturbé. Et je voyais un psy qui m'avait donné des médicaments.
Des antidépresseurs, quoi ou...
Ouais, c'était des mood stabilizers. C'était quelque chose. Ça a un nom, je vais trouver dans mon livre. Je vais regarder, vais trouver ça. Mais bref, je prends mes médicaments avec moi parce qu'ils disent « If you have any medication », si vous avez des médicaments prescrits par le médecin, tu dois les amener avec toi.
D'accord.
Et je fais « Ah oui, ok, bon, bah, c'est sérieux, ok, je prends tout avec moi. » Et je dis « Mais où est-ce qu'on va ? » Et ils me disent « On va dans l'Utah. On va à Provo Canyon School. »
Et là,
ça clique dans ma tête. Je fais « Oh, c'est la vidéo. » Je dis « C'est la cassette. » Et je regarde le mec et je fais « Bah non, moi, je ne veux pas y aller. » Et il me fait « Ah bah, tu dois monter dans la voiture. » Et je fais « Où est ma mère ? Hors de question. Je veux parler à ma mère. » Il a fait « Your mom is no longer here. » She left you.
Oh my God.
Et là, je fais, ah ouais, ok. Donc, je suis toute seule. Et là, dans ma tête, ça commence à calculer. Oh. Et je fais, je vais pas réussir à bullshitter pour m'en sortir. En fait,
ouais,
là, ils sont là, ils viennent me prendre. Et ils disent, est-ce que tu veux qu'on te mette, est-ce que tu vas monter dans la voiture ou est-ce qu'il faut qu'on te mette les menottes? Et ils avaient genre les bracelets anti-émeute.
Les trucs en plastique qui font mal.
Qui font hyper mal. Et moi, je dis, non, non, ça va, ça va. Et je dis au mec, on était dans la voiture et on roulait. Et je dis, qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais partie en courant? Il m'a fait, j'ai le droit de te tackle. Comme un joueur de football professionnel. Tacler au sol. J'ai le droit. Tes parents m'ont donné le droit. Et j'ai fait hors de question que ma mère ait donné le droit de ça. Mais bon, OK. Donc, j'ai rien essayé. On arrive à l'aéroport de Santa Barbara. C'est minuscule.
Ouais, c'est un petit aéroport. Hein.
C'est minuscule. Il y a genre 4 avions. Mm. Et je regarde partout et je me dis...
Il y a quelqu'un qui va venir me sauver.
Ouais,
ou...
Je me dis, ma mère va changer d'avis. C'est bon. J'attends. Le mec, il me dit, et la nana, ils me disent, est-ce que t'as faim? Je fais, ouais, je veux bien de la glace. Donc, ils vont me chercher une boule de glace. Je mange la glace. Tu sais, c'était de la glace qui avait givré. Ouais. Donc, j'étais dégoûtée en plus. J'étais, ah putain, rien ne se passe bien aujourd'hui. je demande un magazine. Ils m'achètent un magazine avec les white stripes en couve. Je m'en rappellerai toujours. Ils m'ont dit, lis-le parce que l'école où tu vas, ils ne te le laisseront pas.
Ouais.
Et là, je demande à aller aux toilettes. Et dans ma tête, je me dis, je vais aux toilettes.
Je vais me barrer.
Mm. Eh ben non. Elle vient aux toilettes avec toi.
Mais genre dans le...
Elle m'a fait prendre le truc handicapé.
Pour qu'elle puisse être debout. Aucune intimité.
Elle a tourné le dos.
Ah ouais, quand même.
Elle a tourné le dos, elle m'a pas regardé. Mais elle a fait, don't try anything funny. I have like the authority to like handcuff you.
Et j'ai l'autorité de te menotter. Ouais.
Et j'étais, ah putain, c'est quoi ce délire? J'avais 14 ans, quoi. J'étais, ah mais c'est quoi?
Mais même à n'importe quel âge, ça paraît complètement lunaire.
J'imagine.
J'ai l'impression que tu me parles d'un film. Enfin, ça paraît fou.
Mais c'était comme un film. Ouais. Et donc, ça revient au coup du. Tu vis dans ce monde de tout est.
Les séries.
Tout est scénarisé. Donc, du coup, t'es là. Eh ben, qu'est-ce qu'il ferait dans mon. Genre, qu'est-ce que ferait Buffy, tu vois? Et c'est là, dans ma tête, où j'avais envie de lui mettre un coup de pied dans, dans la poitrine, de me casser une vitre. Couper les trucs, partir en courant, sauter dans un taxi et me barrer. Mais en fait, t'as 14 ans, t'es une gamine, t'as pas d'argent.
Ouais,
c'est eux qui ont ton passeport.
Ouais.
Et t'as pas de carte de crédit parce que, encore une fois, t'as 14 ans.
Bien sûr.
Ce n'est pas les 14 ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon petit frère, je suis sûre, il a une carte. il peut prendre le métro, il a un téléphone, il a un truc. Tu vois. Moi, j'avais rien. Et donc, l'avion arrive. Et là, j'entends « We're flying to Salt Lake City, Utah ». Et je fais, putain, ça y est, j'y vais. Je vais dans l'Utah. Et dans mon petit sac, eh ben, je trouve mes cachets. Et je me dis, vas-y, putain. Je
prends un truc pour l'anxiété.
Je vais prendre un truc parce que mon cœur sortait de ma poitrine. Ouais. Je ne pouvais plus, je n'y croyais pas. J'étais, mais où est ma mère? Où est mon parent? Où est ma marraine? Où est mon père? J'étais là dans ma tête, j'étais, mais c'est pas possible. Mon père n'est pas au courant. Parce qu'il m'a promis que je n'irais pas. Sa copine de l'époque m'a promis que je n'irais pas. C'était pas possible. Et donc, l'avion de départ, et je me rappelle, je tenais une peluche que j'avais prise de ma chambre, alors que je dormais plus avec des peluches depuis longtemps. Mais j'avais une peluche avec moi parce que j'étais, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et je suis arrivée et ces femmes m'attendaient avec une vieille voiture américaine, genre une Cadillac. Mais sublime, sublime, la voiture de mes rêves, si on était dans d'autres circonstances.
Ouais.
Et je les regarde et elles me font, avec un accent américain, genre, « How do you pronounce your name ?»
Oui, et parce que ça, c'est un autre sujet. Manon, c'est pas facile à dire pour les Américains.
Manon, manœuvre, allez. Je te paye 20 dollars si tu sais le dire rapidement. Et je fais, « My name is Manon Manoeuvre. » And they're like, « Okay, Manoeuvre, we'll get in the car. »
Et ils t'appellent par ton nom de famille, genre militaire.
Militaire.
Ok.
Et je fais, « Okay. »
Et le couple qui t'a, enfin le couple, je ne sais pas si c'est un couple, mais le duo.
Ils s'en vont chercher un autre gamin. Moi, j'avais pris les cachets, donc j'étais endormie à moitié parce que ça te met KO.
Ouais.
Et donc, on est dans la voiture et on roule et je pose des questions et elles me font tes parents t'ont envoyé ici pour que tu sois en sécurité. Et moi, j'ai dit, je pense qu'un parent m'a envoyé ici, pas mon père. Et elles se sont regardées, elles ont rigolé.
Ah ouais.
En mode, you have no idea. Tu n'as aucune idée. C'était deux parents qui t'ont envoyé là. Mais j'étais sûre au fond de moi que ce n'était pas le cas.
Ouais.
Parce que jamais mon père n'aurait autorisé ça. Tu vois. Et donc, je posais des questions et on arrive dans l'école. Et tout à coup, je me rends compte que je suis dans une prison. Parce qu'il y a des murs de 12 mètres de haut.
Des trucs d'enceinte, quoi. Les trucs
avec les fils barbelés autour. Et sur les grillages, ils avaient mis comme une tapisserie verte pour pas qu'on puisse voir à travers, en fait. Donc, on ne pouvait jamais voir ce qui se passait dehors. Et l'immeuble lui-même était gris, vert, marron. Tu sais,
Déprimant, quoi.
Super déprimant. Les trucs moches en stucco américain, quoi. Ouais. Ils ont pas de... Ils essayent jamais de rendre les immeubles beaux, j'ai l'impression. Ils me font arriver et je me rappelle la dame qui m'a accueillie. Elle avait l'air tellement gentille, mais c'était comme... Elle ressemblait vraiment à une Américaine, quoi. Elle était grande, elle était comme une armoire à glace, elle aussi, avec des longs cheveux blonds platine dans une...
Une queue de cheval.
Une queue de cheval sur le haut de sa tête. Donc, ça tombait de tous les côtés. C'était trop bien. et elle me fait « Déshabille-toi ». Mais comme ça, dans le hall, quoi. J'étais devant plein de filles et j'étais à « Pardon ».
Ouais. J'ai bien compris.
Elles me font « Ouais, bah ici, il n'y a plus de mur. Déshabille-toi ».
Ah, il n'y a plus d'intimité, quoi, tu veux dire.
C'est fini. Et je fais « Ok ». Donc, elle me déshabille, elle prend mes fringues et puis elle me donne un jogging rose et un t-shirt jaune. Et je m'en rappellerai toute ma vie de ces couleurs parce que je les déteste. Et c'était trop grand. Le jogging était tellement grand, il n'y avait plus d'élastique.
Il tombait, ouais.
Donc, je dis bah, « il tombe le pantalon » et elle me donne un élastique pour les cheveux. En fait, tu fais un nœud. Je fais « Ok ». Donc, je fais ça, je mets le t-shirt, je mets des vieilles chaussettes trop moches. Elles me font, on va regarder ce que tu as amené. Si des fringues passent le test, eh ben, tu peux les avoir. Mais sinon, on dira à ta mère de t'en envoyer plus. Et moi, j'étais ça veut dire quoi les fringues que j'ai droit d'avoir? Parce que moi, j'arrive de Californie. Mm. Tu vois, donc, chez nous, bah, c'est mini short et mini t-shirt. Mm-hmm. Et en fait, il fallait que je mette chaque article de vêtement et que je lève mes bras au-dessus de ma tête.
Que tu les essayes.
Voilà, il fallait que je lève mes bras au-dessus de ma tête. Si ça montrait plus de 1 cm de peau, je n'avais pas le droit de le garder. Ensuite, il fallait mettre les bras au-dessus de la tête et te pencher en avant. Et si ça montrait 1 cm de peau de ton dos, tu n'avais pas le droit de le garder. Et ça, c'est tous mes fringues, ils ont fait ça. Et il s'avère que je n'avais rien.
Qui passait le test.
Rien qui passait le test. Donc, je suis restée en t-shirt et en survêt rose. T-shirt jaune, banane. Et survêt rose malabar pour genre 3-4 jours. Avec des vieilles chaussettes. Rien n'avait d'élastique dedans. C'était super.
C'était usé, quoi.
Oui, mais pour une personne qui aime bien s'habiller, c'était hyper frustrant, en fait. J'étais mal. Et
puis, c'est pas tes fringues. Déjà que c'est traumatisant d'arriver là.
Mais tu sais même
t'as rien à toi. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques.
T'es un numéro. Tu deviens un chiffre, en fait. Mon numéro,
t'as
c'était 368. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai même encore des... Ma mère m'a demandé l'autre jour, quand on a déménagé dans le Colorado, elle a fait « Ah, t'as amené ce livre, mais pourquoi ?» Et j'ai fait « Pourquoi pas ?» Elle m'a fait « Il y a ton numéro de matricule dessus. » Et j'ai fait « Ça va, c'est un moment de mon passé, tu vois. C'est pas traumatisant. » Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'étais là 4 mois. Il y a des filles, elles étaient là pendant 6 ans. Cette école, c'était une prison pour jeunes filles. Il y avait aussi un campus pour garçons. Mmh. On n'avait pas droit de fraterniser, bien sûr, mais en bon genre des Américains, une fois par mois, si tu t'étais bien
comporté,
ils faisaient une danse où ils réunissaient les deux campus.
D'accord.
Et j'ai toujours trouvé ça genre super
mini
bizarre, tu vois. Genre, pourquoi tu mettrais deux écoles d'enfants qui sont mal élevées ensemble, genre. Et un soir, le week-end du 4 juillet, je crois que c'était, ils ont fait une danse. Et moi, je n'avais jamais assez de bons points pour y aller parce que je détestais cette école. Je parlais mal aux profs. Je n'avais pas envie d'aller en cours. Je ne m'entendais pas avec les filles. Moi, franchement, les filles qui pleurent toute la journée, ça va quoi. You know what you did, you're here.
Donc toi, tu l'acceptais en fait?
Moi, j'acceptais ce que j'avais fait au début. Au début, bien sûr, t'as le déni. Tu te dis, non, moi, j'ai rien fait.
J'étais encore plus
parfaite.
La rage contre les gens qui t'ont mis là-dedans.
Je
quoi.
Comprenais pas.
Ouais.
Et en fait, au bout d'un moment, le thérapeute, il a pas tort, en fait. Il dit, tu fais ça pour attirer l'attention de ton père parce que ton père n'est pas là. Et tu te dis, oui, il a pas tort. Ah, t'as la rage contre ton père parce que chaque fois que tu vas lui rendre visite, il a une nouvelle amie. Une nouvelle petite amie, donc vous n'avez jamais de temps tous les deux. Il y a toujours quelqu'un. Oui, ok, bon, ouais. T'as pas tort là aussi, monsieur Barnet. Ou, tu vois, et il y avait juste... Il y avait beaucoup de moments où j'ai eu des petits moments où je comprenais. Mais ce qui me dérangeait le plus avec cette école, c'était vraiment combien ils te droguent, en fait. J'ai aucune preuve, mais nous, on pensait qu'ils droguaient notre nourriture.
Ah, donc même pas, t'as aucun...
Parce qu'on voulait toujours manger. On voulait toujours être à table. C'est, tu sais, on était dans nos chambres, on était dans les salons, parce que tu avais droit quand même de faire des activités avec genre un puzzle, mmh. Tu pouvais lire des livres, tu pouvais faire du quilting. Tu ouais. sais où tu prépares les couvertures ouais. avec plusieurs petites
ouais, je sais pas
patchs.
Comment on appelle ça.
Je sais pas comment. Mais bref, tu pouvais faire tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte avec pas mal de filles, on voulait toujours manger. On voulait tout le temps aller...
C'est fou, ça.
On avait envie de the honey butter, le beurre avec du miel dedans. Mm-hmm. On le voulait. C'était genre, on se réveillait le matin, on se disait, oh, on espère qu'il va y avoir ça. Alors que c'était bizarre. Et donc, moi, je pensais peut-être qu'ils droguaient notre nourriture.
Ouais.
Peut-être qu'ils mettaient quelque chose dedans qui nous rendait euphoriques. Mm. Bon,
aucune et donc preuve. Plus docile, en fait.
Oui, voilà. Beaucoup plus calme. Et oui, c'était intéressant à voir parce qu'il y avait des filles qui étaient enragées, qui était obligée de rester en confinement. Moi, j'ai dû le faire parce que un jour, j'ai pété un câble et j'ai jeté la chaise contre le mur parce que j'en pouvais plus, en fait. Ouais. Je ne suis pas faite pour être dans un mode militaire. Je ne suis pas faite pour qu'on me donne des directions. Mmh. À la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai couché avec des mecs plus âgés que moi qui ont abusé de moi et je me suis battue à l'école avec des garçons qui m'insultaient. Mmh. Voilà. Voilà pourquoi ma mère a décidé que je devais aller en prison. Je ne comprenais pas, en fait. Mmh. J'étais à voix. Il y avait d'autres moyens.
Ouais,
mais en fait, en tant qu'adulte, tu te rends compte qu'elle a épuisé tous les autres moyens mmh. avant d'utiliser celui-là.
En tout cas, tout ce qu'elle connaissait, quoi. Tu sais comment elle a trouvé cette école?
Oui.
Ah, c'est la psy?
C'est la psy. Je voyais une psy et elle avait un golden retriever et c'était bien. Elle me donnait du chocolat à chaque consultation. Donc, j'étais amie avec elle, bien sûr, parce que tu me donnes du chocolat, je suis ton amie.
Et t'as des chiens.
Et j'adore les chiens. Et donc, du coup, bah, je lui avouais tout parce que pour moi, c'était une psy. Donc, j'allais la voir. J'étais pas avec ma mère. Il n'y avait pas mon
ouais,
père.
Une relation de confiance, quoi.
Il n'y avait pas ma tante. Ma tante était grave ma confidente aussi. Quand j'étais jeune, je relatais plus avec ma tante qu'avec ma mère. Ce qui rendait ma mère folle.
T'avais un meilleur rapport
Un meilleur rapport. Parce que pour moi, ma tante, c'était la mère que moi, je voulais. C'était la sporty mom, tu vois. Elle emmenait ses gosses aux entraînements de foot. Mais elle avait deux maris qui lui payaient de...
Les pensions.
Child support.
Ouais.
Donc, si tu veux, elle avait plus de temps à louer à ses enfants que ma mère qui devait faire
bosser.
Elle-même. Mmh. Qui, elle aussi recevait un paiement par mois de mon père, mais... Elle n'avait pas une nounou à plein temps comme ma tante qui avait une nounou plein temps. On a grandi avec Antonietta, c'était une nounou du Guatemala. Et c'est pour ça que je parle espagnol aujourd'hui. C'est grâce à elle. Mmh. On a grandi avec une dame qui, tous les jours, était chez ma tante, qui nous faisait à manger, qui nous faisait faire nos devoirs. Et c'était génial. Moi, je dis à tout le monde, si tu peux trouver quelqu'un qui peut surveiller ton gosse jusqu'à 16 ans, prends. Prends-le parce que c'est une structure, en fait. Si toi, tu as besoin de travailler, cool. Il n'y a aucune honte à ça. Mais surveiller ton gosse jusqu'à 16 ans, c'est l'important, en fait. C'est l'âge où il y a trop de distractions. Il y a trop de mauvais gamins qui sont là. « Hey, viens voir ce que moi, j'ai trouvé et tout ça. » Et après, tu te retrouves comme moi dans un tourbillon où tu n'as plus envie d'en sortir, en fait. Parce que
puis c'est hyper dur de sortir d'un tourbillon.
Ouais, tu ne peux pas parce que tout à coup... les mecs avec qui t'as flirté vite fait à la plage qui sont plus âgés, maintenant ils savent où t'habites. Donc maintenant ils passent devant chez toi à toute heure de la nuit et ils klaxonnent et donc ta mère
qui sort les effrayer.
Encore une fois, j'ai beaucoup de sympathie pour ma mère, j'ai de la compassion maintenant. Je sais même pas comment elle m'a pas fracassé la tête contre le mur à plusieurs reprises parce que j'étais tête dure, j'étais méchante, j'étais méchante. J'étais une méchante enfant contre ma mère. Et aujourd'hui, tu sais, la grande mode, c'est True Crime Podcast, donc Dateline, Morbide, tous ces histoires. Et en fait...
Crime Junkie.
Voilà, j'adore Crime Junkie, ils sont trop bien. Mais pour te dire, tu sais, ma mère, on écoutait un épisode et c'était l'histoire d'une fille de 15 ans qui avait fait le mur, qui était partie avec un mec de 19 ans. Et quand elle n'a pas voulu coucher avec lui, le mec de 19 ans l'a tué et l'a jeté dans la rivière. Et ils l'ont retrouvé une semaine plus tard. Moi, j'écoutais ça bon comme ça, parce que je conduisais, on faisait la route, je m'en fous, c'est un épisode. Et ma mère était en larmes. Et je la regarde, je fais « What's wrong ?» Elle me fait « That could have been you.
Ouais. »
Ça aurait pu être ton histoire. Et elle m'a expliqué qu'elle sait que ça m'a fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, mais elle voulait éviter que je devienne un épisode, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je la remercie. Mmh. Je lui dis tous les jours, quand je lui parle, je lui dis « Merci, maman. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. » Parce que beaucoup de filles dans cette école où j'étais, leurs parents les avaient abandonnées. Tu sais, les parents, eux aussi, étaient des drogués. Ou les mamans aussi faisaient des trucs pas bien avec des mecs. Ou les pères étaient alcooliques et abusaient les gosses. Moi, rien de tout ça. Mmh. Moi, je suis venue d'une bonne famille. Un papa rock'n'roll, une maman entrepreneuse, une jolie famille. On vivait dans une jolie ville. J'avais absolument tout ce que je voulais. Et c'était moi, pour cause de rébellion, parce que je voulais être comme Buffy, parce que je voulais casser les murs de Santa Barbara, parce que je voulais sortir du lot et être reconnue comme une rebelle. Eh bien, je me suis retrouvée dans un putain de bordel, en fait. Et grâce à ma mère, elle m'a mis dans cette école. J'ai détesté l'école. Je détestais mon psy, je détestais les gardiens. C'était tous des anciens militaires. Et ils étaient vachement...
durs.
Méchants.
Ouais.
Just méchants. Genre,
tu les fais des copines là-bas?
Alors, j'ai parlé avec quelques filles.
Parce que comment est-ce que tu arrives à tisser des amitiés dans une situation où tu es sous la contrainte sur plein de choses et où tous tes sujets de conversation sont filtrés? Parce que tu es surveillée, du coup, comment est-ce que tu fais
tout
pour...
Tout était surveillé et le pire, c'était qu'il y avait des poucaves, tu sais, des snitchs dans l'école.
Ah,
il y avait
des balances.
Oui, des balances, voilà, des balances, pas des poucaves. Bonjour, je viens de Barbès. J'ai vécu à Barbès pendant 6 ans. Pardon, poucave, c'est dans
pas
les
de problème.
Mots. Mais il y avait des balances et c'était dur parce que t'as espoir que tout le monde est comme toi, que tout le monde est là parce qu'ils veulent pas être là. Mais en fait, t'as des filles qui ont été là.
Qui ont déjà été converties d'une certaine manière.
Voilà,
quoi.
Elles ont été brainwashed, lavées du cerveau.
Ouais.
Et tu les voyais, elles étaient pourquoi t'es là? Et tu disais « I don't fucking care ». Et tu disais des gros mots et hop, tout à coup, 20 minutes plus tard, tu avais une surveillante qui venait te voir et te disait « T'as dit des gros mots aujourd'hui ?» Et tu étais « Pardon ?» Elle a fait « Oui, oui, j'ai parlé avec Iliane, on va dire. J'ai parlé avec Iliane et elle m'a dit que tu lui racontais, que tu glorifiais les raisons pourquoi tu étais là. Et ça, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas... être fière de pourquoi tu étais dans cette école. Il ne fallait pas montrer que tu n'avais pas honte.
En gros, tu dois être repentir à vie.
Voilà,
c'est
repentir,
un peu le chemin de
croix. Que je voulais. Voilà, il fallait être... You had to repent. Mm-hmm. You had to feel guilty for being here.
Ouais.
Et moi, je disais, OK, je me sens mal. Elle me fait, prends une chaise. Et je fais, pardon. Elle me fait, tu prends une chaise et tu vas t'asseoir dans le couloir pendant 45 minutes. Face au mur. Et je regarde, je fais, c'est une blague pour avoir dit fucking.
C'est complètement déshumanisant.
Et, et après, tu vas écrire 10 raisons pourquoi tu es là et pourquoi ce n'est pas bien que tu sois là. Tu dois écrire les vraies raisons de pourquoi tu es là. Et moi, j'étais OK. Et donc, je l'ai fait. Je me suis assise. J'ai fait les 45 minutes. Et une fille vient me parler pendant que je suis sur la chaise. Et je lui dis, oh, I'm on a chair right now. Genre, je suis sur la chaise maintenant, tu ne peux pas me parler. La surveillante voit et elle fait, maneuve, 10 minutes de plus.
Oh la vache.
Et je la regarde, je fais, elle me fait, juste répondu. Parce qu'en plus, tu es en train d'accuser quelqu'un d'autre.
Oh la 10 vache.
10 minutes. Et j'étais là pendant une
heure. Tu t'es pris 20 minutes comme ça.
J'étais là 90 minutes total. Et je me souviendrai toujours un jour par réflexe, j'ai pris une douche, c'était des douches dans une chambre et on était 4 par chambre et par réflexe j'ai juste fermé la porte en fait. Les sirènes se déclenchent. Si tu fermes la porte, ça déclenche une sirène et donc tout le monde court dans la chambre, hop, bim, sur la chaise en serviette mouillée. Je devais être sur la chaise parce que j'ai fermé ma porte, mais c'était par accident.
Tout était comme ça, quoi.
Tout. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu droit que ma mère vienne me rendre visite. Elle est venue.
T'as eu des contacts avec elle à part la visite?
Ouais, je crois que c'est une semaine ou les deux premières semaines, je me souviens plus. tu n'as pas le droit de parler à qui que ce soit, ni à tes parents, ni à tes amis. Tu reçois aucune lettre, aucun colis, rien. Parce qu'ils savent que la première semaine que tu vas parler à qui que ce soit, ça va être « sors-moi d'ici, je veux rentrer chez moi ». Je vais être mieux, je vais mieux me comporter. Pardon.
Et ils veulent pas que les parents craquent, en fait.
Ils veulent pas que les parents craquent. Donc moi, je fais OK. Et puis, je parle à ma mère. Et la première chose que je lui dis, sors-moi de là, mais en français. Et mon thérapeute me regarde et me fait, je coupe le téléphone si tu reparles en français. Et je fais quoi?
Ça veut dire que tu peux même pas appeler ton père. Avec ton père, tu lui parles en français.
Voilà, avec mon père, on a toujours parlé en français. Donc, mon premier coup de fil avec mon père, il était à Amsterdam et il était avec sa compagne à l'époque. Et je parlais en anglais et mon père essayait de me parler en français et je disais...
Pourquoi? Eux, ils écoutent la conversation?
Voilà, j'étais sur haut-parleur avec mon
père. Ah ouais, donc ils entendent ton père aussi.
Mon père, c'était un peu le drapeau rouge parce que...
Ah, red flag, tu veux
dire? Ouais, voilà.
Donc, ils s'en méfiaient.
Voilà, la personne à se méfier, c'était mon père sur mes appels parce que mon père ne voulait pas que je sois là.
Comment est-ce que ça a été justement le premier appel avec lui? Parce que t'es rentrée en disant, mais mon père m'a... C'est pas possible, mon père m'a pas laissé partir là.
C'était, je ne voulais pas être là, je voulais qu'il vienne me chercher, je ne comprenais pas. Et il m'a dit, respire, fais ce qu'il te demande, on s'en occupe.
Ok.
Mon père, c'est toujours un homme de très peu de mots, mais si mon père te dit, on s'en occupe, il va s'en occuper.
T'as confiance, quoi.
Ouais. Et toute ma vie, ça a été ça. Que ce soit des places de concert ou pour me sortir de prison, il s'en occupe. On a compris. Et donc, du coup, j'avais le droit de parler à mon père une fois par semaine. Et sa compagne n'était pas contente, quoi. Parce qu'elle aussi, elle avait été enfermée quand elle était ado, mais dans un HP en France.
Un hôpital psychiatrique.
Voilà, un hôpital psychiatrique. Et... je me trompe à chaque fois, c'est à Nancy ou à Rennes, je ne sais plus. Mais bon,
bref. Les opposés hein, quand même.
Voilà, oui, total. Mais je crois que c'était Nancy. Mais,
d'accord.
Donc pour elle, c'était revivre un traumatisme.
Ouais.
Et chaque fois que mon père était au téléphone avec moi, elle me parlait, elle essayait de me rassurer. Elle faisait, t'inquiète, petit écureuil, je suis là. Et j'étais, oui, moi aussi, je suis là. Et puis... un jour, je crois qu'ils avaient fumé un peu trop à Amsterdam. Elle a pris le téléphone et elle a commencé à dire « Allô, Marc, est-ce que tu m'entends ?» Mais en anglais. Et elle disait donc à mon thérapeute, Marc Barnet, elle faisait « Tu m'entends, Marc? Tu m'entends? Est-ce que ça te fait plaisir de garder des filles enfermées? Ça te donne un sens d'autorité? Tu aimes ça? Est-ce que... j'espère que tu brûleras en enfer, t'es dégueulasse, t'es un pervers, t'es un pédophile. »
Donc tout ça en anglais.
Ouais, en anglais.
Pour être sûr qu'il comprenne.
Et il me regarde, il me fait « I'm gonna hang up the phone now » et il raccroche. Et mon père a essayé de rappeler et il n'a pas pu me contacter. J'étais pas punie parce qu'il a fait clairement « cette femme, c'est elle qui a besoin d'aide ». Tu vois, il a retourné la situation.
Ouais.
Il a
bien sûr.
Mais on avait quand même des appels... programmé. Et il y avait un week-end où c'était genre c'était le début de l'été, donc ça devait être genre Memorial Day weekend ou un truc comme ça, c'était une fête du travail et il n'y avait personne pour surveiller les coups de fil, mais il y avait les surveillants et les surveillants, ils avaient l'affiche qui disait aujourd'hui Manon elle a un coup de fil avec son père à 11h. Et donc je faisais du sport à l'extérieur dans une cage. On n'avait pas le droit de sortir de la cage, sauf si on était accompagné par un surveillant. Et donc, à 11h, j'ai eu mon coup de fil avec mon père. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui nous écoutait pour la première fois. Donc, avril... Oui, donc, pour la première fois en un mois et demi, il n'y avait personne qui nous écoutait. Donc, moi, je lui ai dit, papa, il n'y a personne qui nous écoute, on peut parler en français. Et là, il me sort. Écoute... on t'envoie des lettres, est-ce que tu les reçois? Je fais oui, mais des fois, je ne comprends pas ce que tu m'écris. Il me fait, Manon, chaque troisième mot, tu l'encercles.
Oh,
c'est une technique d'espion et tu vas comprendre. Et je fais, OK. Donc, je reprends toutes les lettres de mon père et j'encercle les mots. Eh bien, effectivement, il y avait un code secret et ça disait qu'il était en train de trouver un avocat ici dans l'Utah. Parce qu'il avait eu une pub avec SFR qui lui avait donné de l'argent, ou une pub avec Orange, qui lui avait donné assez d'argent pour prendre un avocat. Parce qu'en fait, en France, il n'y avait aucun avocat qui voulait prendre le cas, qui voulait prendre le dossier.
Parce qu'il faut aller le fight aux
parce
US.
Parce que c'était une mère américaine contre un père français aux États-Unis. Et les avocats français, ils disaient, on n'a aucune chance aux États-Unis. Ils donnent toujours le pouvoir aux femmes. Et c'est... Ok,
j'ai quoi le rapport avec SFR Orange ?
Que les avocats américains, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand il a eu la pub SFR ou Orange, il a eu assez d'argent pour oublier les avocats.
Ah, il a fait. Il a eu un job, voilà, tu veux dire. Il a eu... mais c'est quoi le rapport avec...
Donc, il a fait une pub. Et okay. Ça lui a donné un contrat qui lui a donné de l'argent.
Ouais.
Et il a pu...
Pour pouvoir engager un avocat local.
Voilà, il a pu engager un avocat. Et bizarrement, c'était un avocat scientologue. Et donc, je sais que la scientologie, ça prend beaucoup de mauvais... Je ne sais pas comment dire. Gets a lot of bad rap. Like,
c'est une mauvaise réputation.
C'est une mauvaise
Surtout
réputation.
Ouais.
La scientologie, c'est une mauvaise réputation. Sauf que, je suis d'accord, c'est une culte. Un culte. Si ce qu'ils disent, c'est vrai, bon, ok, génial.
Une secte, tu veux dire.
Une secte, voilà. Mais pour moi, ils m'ont sorti de prison. Ouais. Donc pour moi, j'ai
un quelqu'un
respect,
qui avait vécu une situation un peu similaire.
Voilà, donc l'avocate, en gros, elle avait expliqué les documents signés, etc., que ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, elle a réussi à me sortir de là, à Provo. J'y suis restée 4 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, donc 5e mois, mon père m'a sorti de là. Je ne savais pas qui venait, je ne savais pas quand il allait venir. Je savais juste qu'il travaillait sur le sujet.
Tu faisais quoi au moment où... Enfin, comment ça s'est passé?
Je m'en souviendrai toute ma vie.
Ouais.
J'étais en cours de SVT, science. Ils étaient en train de nous expliquer pourquoi la Lune tourne autour de la Terre ou je sais pas quoi. Et je me disais, wow, this is my life now. Voilà, c'est ma nouvelle vie.
Ah, t'étais un peu dépitée, quoi.
Ah, genre, ouais, j'étais au bout du 4e mois, en fait, que tu dois prendre des douches devant des filles. Tu ne peux pas prendre une douche trop longtemps. Tu ne peux pas prendre une douche trop courte. Mais tout
est réglementé.
Mesuré, ouais. Tout. Tes fringues, tes cheveux. J'avais les cheveux rouges bordeaux quand je suis arrivée. Et ils voulaient me raser la tête. Pour pas que j'ai les cheveux d'une couleur bizarre. Et j'ai fait, bah non, t'as pas le droit de me raser les cheveux. Mais t'es fou. Et ils me font, yeah, well, we can. On a le droit. Et j'ai fait, ah, moi, je voudrais bien que tu parles à ma mère. Parce que mes cheveux, elle ne voudra pas que tu les rases. Et finalement, ben c'est bon, ça c'est, ils m'ont pas rasé la tête. Mais donc oui, donc j'étais en cours d'SVT. C'était le matin, il était 11h. Et tout à coup, la surveillante que je détestais le plus au monde, mais vraiment cette femme, Casey, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle était méchante, elle avait les sourcils tellement fins. C'est vraiment juste une tête de méchante.
Ouais.
Elle nous détestait, elle aimait pas son boulot, je sais pas. Bref, elle vient me chercher, elle fait « Manœuvre ». Et je la regarde, je fais « Hi !» Parce qu'il faut être gentil avec les surveillantes. Mmh. Parce que si t'es méchante, elles peuvent te mettre en détention.
Mmh, en col.
Et je la regarde, je fais « Hi, Casey !» Et elle me fait « Don't do that fake shit with me. » Genre, fais pas cette fausse... N'aie pas cette fausse air joyeuse avec moi. Mmh. Je fais « Ok, ça commence bien.
Mmh. »
Elle me fait « Viens avec moi. » Donc, je dis au prof, je dis « Bon, ben, je m'en vais. » Il m'a fait « Ok, prends tes affaires. » Et je fais « Ok. » Et j'ai dit, vous savez ce qui se passe? Il me fait pas du tout. Et tout le monde me regarde, genre, qu'est-ce que t'as fait? Parce que
Arrive pas souvent qu'on vienne te chercher au milieu d'une classe, quoi.
On te sort pas de cours sauf si t'as fait quelque chose. Et donc, je commence à marcher avec elle.
Donc, t'as peur?
Et je suis toute seule avec elle dans un couloir. Et là, je me dis, elle va me taper, elle va me faire quelque chose, tu vois. Je t'ai prête. Et elle me fait, t'as vraiment déconné cette fois-ci, manœuvre. Et j'ai fait quoi? Elle m'a fait, ouais, on va te descendre d'un niveau. Parce que j'avais accédé au niveau 2, t'as 0, 1, 2, 3. J'avais accédé au niveau 2, qui me donnait plus de liberté, mais pas trop quand même.
Pas déconner.
Et elle m'a fait, on va aller dans ta chambre, tu vas faire tes sacs et tu retournes au niveau 0. Et je la regarde, je fais, mais non, mais pourquoi? Arrête. J'ai fait toutes mes efforts, j'ai fait toutes mes devoirs, toutes mes tâches, j'ai des bonnes notes, je vais en cours, genre, pourquoi? Et là, elle me regarde, elle fait, non, je rigole. Et je fais, that's not funny.
Ouais.
Elle me fait, ton père est dans le hall, il t'attend.
Et voilà qui est terminé pour ce premier épisode. Je suis désolée pour ce cliffhanger, pour ce suspense. J'ai décidé de couper ici juste parce que nous avons 2 relativement longs épisodes. Bien sûr, pas besoin d'attendre pour continuer. L'épisode 2 est déjà en ligne.
Je vous y retrouve tout de suite. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!